Bonjour à tous. Moi, je vais parler d'instruments tout à fait archaïques, le papier, le crayon et le traitement de texte. Mais c'est encore des outils utilisés, donc vous m'excuserez d'en parler un petit peu. Je vais m'intéresser ici plus spécifiquement au changement qu'apporte ou que devrait apporter l'outil d'écriture, alors pas seulement l'outil d'écriture traitement de texte, sur l'activité de production elle-même, évidemment en même temps un petit peu sur les pratiques scripturales, et voir si possible comment ça peut être mis au service d'apprentissage. Alors j'ai mis en exergue, je ne sais pas s'il est lisible, un petit peu par boutade, un texte de Sternberg qui est extrait d'un très court... est-ce qu'il est lisible ?
Oui, ça.
Voilà. Qui est extrait d'un de ses récits courts qu'il a écrit, dans lequel, vous pouvez le lire, le comité, alors qui s'appelle là comité de triage, qui est quand même un nom un peu dur pour un comité rédactionnel, refuse un ouvrage parce qu'il n'a pas la typographie, il n'a pas été écrit sur le bon ordinateur, et donc la typographie ne convient pas. Alors j'ai mis ça représente un petit peu en matière de boutade. En réalité, ça n'en est pas tant que ça, parce que la typographie, c'est un des points qu'on peut défendre, la typographie, les aspects matériels font partie des attributs du texte eux-mêmes. Et lire un texte avec une typographie qui ne convient pas, finalement, altère la signification du texte. Mais là, c'était simplement en exergue que j'ai mis ça, bien sûr. Alors, je vais suivre le plan suivant. Je m'attarderai surtout plutôt sur le deuxième point. Sur le premier point, je pense que ce que je vais dire va peut-être entrer en résonance avec ce que tu viens de dire, hein, Claude. L'écriture électronique, j'évoquerai très très rapidement la phase d'enthousiasme et les raisons qu'on avait de croire à des changements dans le mode scolaire, dans l'usage scolaire. Bon, je vais dire après, enfin, c'est, il n'y a pas de suspense que peut-être les espoirs ont été déçus. Cependant, les hypothèses que nous avions de croire aux qualités du traitement de texte, à ce qu'il pouvait apporter, je crois que ces hypothèses demeurent. Donc, c'est peut-être sur d'autres points qu'il faut revenir. Ensuite, je viendrai davantage sur les questions relatives à l'instrument d'écriture et aux changements qu'il apporte. D'une part, en prenant un exemple très, très précis qui est celui de l'école maternelle, un tout petit moment de l'école maternelle, et puis je parlerai de ce que j'appelais les contraintes d'écriture. Enfin, le terme contrainte existe dans un autre sens, mais dans notre équipe de recherche, on a donné un sens particulier à contrainte pour des raisons théoriques et méthodologiques, et j'exposerai un petit peu ce cadre-là. Et puis je terminerai, c'est vraiment une petite conclusion, avec quelques pistes de travail pour les classes. Voilà. Alors, ici, j'ai fait figurer un rapide historique. Si on part de 1985, le plan informatique pour tous, moment où on commence à équiper les établissements scolaires avec des appareils qui s'appelaient, je crois, des TO7, qui avaient quelque chose comme 16K de mémoire, un temps où on est obligé de fabriquer beaucoup de choses, formation des enseignants. Et une particularité quand même, je ne m'attarde pas du tout sur cette période-là, mais une particularité quand même qui est notable et qui explique peut-être un certain nombre de choses, c'est que c'est la première fois qu'une technologie ou qu'une science est introduite à l'école en même temps que s'opère son développement social. D'habitude, on attend que les pratiques sociales se soit forgé, soit installé finalement dans le public avant d'en parler à l'école. Et en 85, l'ordinateur existait depuis avant la guerre, mais c'est le moment où l'industrie commence à développer les ordinateurs et l'école ne veut pas manquer le cap. Alors il y a peut-être eu aussi à ce moment-là, donc il y a eu quelque chose d'extrêmement volontariste, l'idée aussi de former par ricochet tous les enseignants. Peut-être était-ce une erreur, je ne le crois pas, de proposer quelque chose en même temps que ça se développait dans la société. Peut-être que l'erreur a été, à ce moment-là, mais on ne pouvait pas tellement le prévoir, dans les formations qui ont été dispensées, d'attacher beaucoup plus d'importance aux pratiques qu'aux outils. Aux outils, pardon, qu'aux pratiques. Et c'est vrai qu'il y avait dans la formation, des cours où on apprenait, ceci est une prise électrique, vous branchez votre prise électrique, etc. Alors, ce n'était pas à ce moment-là, enfin, ce n'était pas le plus important. 90, elle a écrit un petit peu avant, je cite un article d'Annie Piola, mais il y avait toute une série d'articles parus aux États-Unis un petit peu avant, parus à cette époque, dans lequel on s'est énormément interrogé sur les transformations apportées à l'écriture par le traitement de texte, avec l'idée qu'il y a une amélioration possible. Et je vais retracer tout à l'heure les hypothèses qu'on avait sur ce qu'on a appelé une amélioration. C'est pas forcément une amélioration, mais au moins un changement. Je pense que ces hypothèses demeurent pour partie vraies, certaines choses. Et alors, 2010, l'ordinateur est vraiment absolument partout, dans tous les milieux, peut-être pas effectivement les milieux les plus démunis, mais les élèves savent tous ce que c'est qu'un ordinateur, savent tous à peu près comment ça marche. Ils ont tous des téléphones portables, ils envoient des SMS, ils sont inscrits sur Facebook. Il y a de nouvelles formes qui se sont développées. Il y a vraiment de nouveaux écrits sociaux qui existent. L'écriture manuscrite demeure, mais cette fois, c'est elle qui est cantonnée à certains usages. Du type prise de notes, écrit intime, écrit volatile, etc. Les enseignants, en tout cas tous les nouveaux enseignants, devront avoir passé le C2I2E. Et les pratiques scolaires sont extrêmement inégales. Enfin, je pense que je rejoins ce que tu viens de dire. Les pratiques scolaires, moi, je ne les connais que d'après les retours des stagiaires, notamment dans le cadre du C2I2E, où ils doivent dire comment ils peuvent avoir accès au matériel informatique dans l'établissement dans lequel ils font leur stage. Et puis, ils rapportent un grand nombre de difficultés. Donc, je ne sais pas du tout si c'est une réalité générale, mais semble-t-il, les pratiques sont extrêmement inégales. Il y a des pratiques professionnelles qui se développent, le cahier de texte informatique, les bulletins de notes informatiques, mais des pratiques aussi en géographie, en mathématiques, en français. Mais, d'après les retours que nous avons, c'est très, très, très inégal. Alors, je reviens sur les raisons qui ont pu faire qu'on accordait beaucoup de confiance dans ce que le traitement de texte allait apporter. Ça part d'une analyse de l'activité d'écriture dans laquelle on estime que finalement il y a, pour simplifier, trois aspects qui sont en jeu dans l'écriture et qui posent tous un certain nombre de problèmes. Je ne sais pas si les couleurs sont bien choisies. Oui, ça va. C'est une activité motrice et qui donc, de ce point de vue-là, consomme de l'énergie, consomme du temps, surtout avec les scripteurs malhabiles. C'est une activité cognitivo-langagière dans laquelle on a à la fois employé un système linguistique qui pose pas mal de problèmes quelle que soit la langue, et qui en pose particulièrement en français en raison des difficultés de la morphographie du français, qui est quand même une langue très, très, très complexe. Parce que même si le nombre, disons, de morphogrammes n'est pas exactement le même que celui de l'anglais, où les mots sont très distincts, le traitement grammatical en français est extrêmement pesant également. Donc, il faut allouer beaucoup de ressources cognitives à cette partie-là. Et en même temps, il faut générer un texte. Donc, tout cela, ça occupe de l'attention. Et puis, là, il y a une dimension importante de l'écriture qui est que c'est un acte social, c'est un acte de communication dans lequel on est, on cherche à être en contact avec un destinataire, et on se positionne soi-même comme responsable de sa parole. Donc l'idée du traitement de texte, ou du traitement de texte avec ses adjuvants que sont les dictionnaires, les outils de correction, etc., c'est que une partie de la charge va être prise, va être assumée par la machine. Voilà, c'est ce qu'avait écrit Colette Dayout, une Américaine, en 1981. C'est-à-dire vraiment, avant même notre plan informatique pour tous, où elle expliquait que quand on taperait les textes sur ordinateur, les choses iraient mieux. Alors, en fait, si on regarde ces hypothèses initiales, je pense qu'il y en a certaines qui sont peut-être à corriger, d'autres qui sont gardées. Alors, l'idée de la prise en charge d'une partie des actes moteurs, c'est vraiment ce qui a été mis en avant par tous les psychologues cognitivistes qui sont interrogés sur la question, et qui avaient travaillé auparavant sur les actes moteurs de l'écriture manuscrite, et qui avaient constaté que ça occupait chez les scripteurs malhabiles, enfin ça perturbait véritablement le processus de production. En outre, j'aborde le quatrième point qui est sur la diapositive. Les écrits sont dénoncés un petit peu par leur qualité graphique. Et ça, des expériences en décimologie ont montré que le même texte, bien calligraphié, mal calligraphié ou dactylographié, ne suscitait pas les mêmes jugements. Donc, je pense que cette hypothèse-là reste valide. Les deux autres hypothèses que je présentais en second et en troisième, l'idée d'une facilitation procédurale, je pense que ce n'est pas une hypothèse qu'il faut rejeter. C'est le fait que l'espace du traitement de texte est un espace tout à fait flexible, et que donc les opérations d'insertion, de déplacement, de remplacement et de suppression sont des opérations qui peuvent se faire sans cicatrice dans le texte, et qui sont de ce fait-là appelées à être plus nombreuses. Alors, tous les enregistrements qu'on a pu faire de suivi, effectivement, de personnes qui travaillent sur informatique avec des mouchards, qui ne sont pas des délateurs, mais des dispositifs qu'on met sur les appareils pour suivre l'inscription, montrent effectivement que le nombre d'opérations génétiques est extrêmement important lorsqu'on écrit sur traitement de texte. L'usage des aides intégrées, des dictionnaires, des correcteurs, avec maintenant des correcteurs qui ont véritablement progressé, hein, le correcteur du type cordial, etc., fait que ça facilite la tâche. Donc les hypothèses de départ, elles demeurent, je pense, elles demeurent vraies. Mais c'est vrai que dans les classes, je pense que ça modifie les pratiques réellement, mais dans les classes, ça ne les a pas, pas tellement modifiés. Et peut-être parce que on avait fait trop confiance à ces machines. Alors, les premières choses qu'on a constatées sont des difficultés qui sont liées à des aspects techniques, parce qu'on avait négligé finalement le poids technique de l'ordinateur. Voilà. Donc, on est amené à revoir la manière dont se produisent les écrits. Et quand on regarde dans une optique, alors qui est une optique modulariste, ce que fait un scripteur quand il est en train d'écrire, on s'aperçoit que même s'il écrit à la main, qu'il écrive à la main ou qu'il écrive à la machine, il a finalement les mêmes opérations à accomplir. C'est-à-dire que il doit finalement gérer des opérations qui se situent à, disons, plusieurs niveaux cognitifs et dans des temporalités différentes. Lorsqu'il est en train d'écrire à la main ou lorsqu'il est en train de dactylographier, il est obligé d'activer un certain nombre de commandes motrices dans le même temps qu'il est en train de formuler son message et finalement de concevoir la suite de son propos. Alors pour cela, il va faire appel à du lexique personnel qui est à sa disposition, mais il va devoir procéder à des encodages. Et il y a une perturbation finalement de tous les processus, c'est-à-dire qu'ils interfèrent les uns avec les autres. Et le scripteur est obligé d'exercer un contrôle sur sa production, c'est-à-dire d'être sans arrêt en train de relire ce qu'il est en train d'écrire ou en train d'écouter ce qu'il est en train de dire. Et cette deuxième activité, qui est une activité en parallèle, crée encore une zone de travail. Donc, tant que le scripteur a une tâche manuelle, qu'elle soit celle qui consiste à taper sur les touches ou celle qui consiste à écrire à la main, il est toujours en train finalement de gérer plusieurs tâches de différents niveaux en même temps. Et pendant qu'il est en train de taper sur la lettre, de chercher sur son clavier la lettre A, s'il est un mauvais dactylographe comme c'est mon cas, il doit en même temps penser à son texte et penser à des aspects grammaticaux de son texte et en même temps relire ce qu'il est en train d'écrire. Et toutes ces choses-là font que finalement il n'y a pas d'amélioration magique fournie par l'ordinateur. Donc ce schéma qu'on avait appliqué d'abord à la parole, il a été fait par un psychologue qui traitait de la parole, on l'a appliqué à l'écrit, mais à l'écrit manuscrit, et on s'est aperçu qu'il fallait également l'appliquer à l'écrit dactylographié, que ce soit sur ordinateur ou sur chose. Donc, on invoque ces raisons-là pour expliquer qu'il n'y a pas eu l'amélioration attendue. Des difficultés matérielles, je n'ai pas besoin de les évoquer longuement, mais travailler dans une classe avec des ordinateurs, essayer d'avoir accès à l'ordinateur, c'est quelque chose de très difficile. Et puis, il y a deux autres types de difficultés qui me paraissent importantes et sur lesquelles nous devons pouvoir agir. La première, c'est celle qui est liée aux conceptions de l'écriture. Je pense que les programmes scolaires ont tâché de faire évoluer, du moins pendant un certain temps, les représentations un peu fixistes de l'écriture. Notamment, par exemple, dans les programmes de lycée où on a fait travailler sur la jeunesse de l'écriture. On assiste à, je dois dire, alors moi j'ai absolument le droit de ne pas employer la langue de bois, à un retour en arrière dans les injonctions qui rejoignent finalement un certain nombre d'idées communes. et on a des se réinstalle ce qui n'était pas mort, c'est-à-dire des conceptions relativement fixistes de l'écriture. Il y a également pour les enseignants, je crois, un très très grand inconfort pédagogique à travailler sur le traitement de texte. Alors, je ne dis pas technique. D'abord, c'est se mettre dans une situation de concurrence avec les pratiques sociales. C'est se mettre, enfin, c'est un petit peu l'idée de se mettre sur le même plan que ce que font les élèves chez eux, ou en dehors de l'école, ou ce qui se fait dans un monde qui n'est pas celui de l'école. Même si ça n'est pas, ça n'est pas vrai, enfin, je veux dire, le monde littéraire, par exemple, est très proche de ces pratiques-là. Mais il y a des représentations sur le monde littéraire ou sur le monde journalistique qui font que l'école a besoin de se démarquer de cela. Ça rend extrêmement difficile la gestion par l'enseignant. L'enseignant se trouve dans une posture d'insécurité très grande pour évaluer, par exemple, évaluer des écrits dans lesquels il ne reconnaît pas la main de l'élève, des écrits qui peuvent être produits à plusieurs, dans lequel le statut tutorial a changé. Ça crée un fort sentiment d'insécurité. Et il va se trouver en même temps en contradiction avec un certain nombre de consignes qu'il est obligé de donner, qui sont des consignes d'ordre, de progression, d'installation. Le fameux discours, j'ai pas mis le nom d'auteur, le discours de Buffon sur le style, c'est quand même celui qui constitue un fondement de la pédagogie du français, dans lequel on dit que on pense d'abord, et puis après les mots viennent, et puis ensuite on écrit. Et les mots aisément les mots pour le dire viennent aisément. Cette conception, elle est quand même au cœur de l'école. Donc défendre quelque chose d'autre. Et je dirais que pédagogiquement, on en a besoin d'une certaine façon. On a besoin de dire, je vais vous apprendre à structurer. Et quand vous serez structuré, je vais vous donner quelque chose pour enseigner. Et si on se met dans des positions plus tâtonnantes, on se met en insécurité. Donc, je pense qu'il faut essayer, enfin c'est notre rôle de formateur, revoir les positionnements didactiques et repenser l'écriture dans sa globalité. Les positionnements didactiques, c'est-à-dire quelle est la place de l'enseignant de français à l'école ou dans le secondaire face à quelqu'un à qui il convient d'attribuer un double statut, le statut d'élève et le statut d'auteur en devenir. Donc voilà un petit peu la situation. Alors là, j'en viens maintenant à mon deuxième point, qui est le rôle de l'instrument. Alors, il y a une tradition qui est aussi, qui nous vient des Lumières, qui dit que l'homme progresse et en progressant, il est à même de créer de meilleurs outils. Donc, un outil qui apparaît est la manifestation d'un progrès le fait que ça surgisse dans une société, ça montre que la société a progressé. Alors c'est vrai d'une certaine façon, on va dire culturellement, c'est-à-dire que pour qu'un produit nouveau soit adopté, il faut qu'il y ait une société qui soit en mesure de le recevoir, qui donc puisse lui soit intellectuellement, culturellement capable de lui réserver un accueil, sinon ça ne servirait pas. Enfin, on sait très bien que la machine à vapeur a été inventée, enfin, le premier mécanisme à vapeur a été inventé chez les Diadoques, enfin, en Égypte, hein, pour faire ouvrir une porte. Et je crois que c'est au IIIe siècle, et on n'a jamais utilisé la machine à vapeur parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'on pouvait faire de la machine à vapeur. Donc, c'est vrai d'une certaine façon, mais on a quand même revisité la question avec notamment le roi Goran, qui a montré que cette conception du développement qui tout d'un coup permettait l'émergence d'une technologie devait être repensée parce que c'est une conception un petit peu finaliste et qui avait pour fondement l'idée qu'il y ait une distinction de nature entre les hommes et les animaux. Et que la supériorité de l'homme, c'était l'outil, il fallait fonder cette supériorité. Et ce que le roi Goran était un des premiers à dire, il a inversé la position, c'est-à-dire en disant, finalement, c'est l'outil qui favorise le développement conceptuel. S'il y a progrès, c'est parce que on a un progrès conceptuel, c'est parce que on est en mesure, finalement, de se transformer par rapport à un outil. Alors, c'est repris par les ergonomes avec des concepts un petit peu différents, notamment Rabardel qui dit qu'il y a interaction avec l'instrument. C'est-à-dire qu'en particulier, les instruments technologiques sont des partenaires, même si ce ne sont pas... comme il a été dit, il n'y a pas une véritable interactivité au sens interactivité conversationnelle. En revanche, la machine nous pilote d'une certaine façon et nous répondons d'une certaine façon à la machine. Quand le téléphone sonne, le téléphone nous sonne et nous donne l'ordre de faire quelque chose. Et nous entrons en interaction avec cette machine. Nous lui obéissons ou pas. Voilà. Et Schnevely a montré que, il a repris d'autres thèses, hein, il y a des développements de chaînes d'utilisation, c'est-à-dire que c'est finalement l'outil qui va obliger l'individu à développer des gestes. Alors on le voit bien quand c'est des outils manuels, mais également des gestes intellectuels. Et c'est vrai que, pour prendre des exemples assez simples, écrire avec une craie ou écrire avec un feutre sur un tableau blanc, on est obligé de développer des gestes qui sont différents. Finalement, la manière de se conduire est pilotée ici par la technologie. On est obligé d'avoir des stratégies un petit peu différentes. Alors, pour illustrer... Alors, c'est... je vais donner deux illustrations du rôle de l'instrument dans le développement conceptuel. Une première illustration qui est très connue, qui porte sur ce que les formes d'écriture apportent. Et la deuxième illustration qui concernera les enfants de maternelle. Alors... L'outil d'écriture, c'est l'outil, je dis bien l'outil, c'est-à-dire que ce soit si on travaille si on est sculpteur, si on est lapicide et qu'on travaille au burin, ou si on est scribe et qu'on travaille avec un poinçon, ou si on écrit avec un pinceau en Chine. Ou si on écrit avec un stylo, etc. L'outil d'écriture tel qu'il existait historiquement a permis que s'élaborent certaines formes d'écriture Et ces formes d'écriture ont à leur tour permis des modes de symbolisation. C'est bien parce qu'à un certain moment, on a pu utiliser certains matériaux, certains outils, qu'on a pu créer certains caractères, et qu'à ce moment-là, on a pu entrer dans des formes sémiotiques particulières. Alors, l'exemple classique, je pense que vous ne le voyez peut-être pas, donc vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit dessus, ce sont deux tablettes cunéiformes. Je vous les traduis. Alors, la grande tablette, c'est une tablette dans laquelle un apprenti scribe raconte sa journée à l'école. Hein. Qu'as-tu fait à l'école? J'ai récité ma tablette, j'ai déjeuné, puis j'ai préparé ma nouvelle tablette, je l'ai couverte d'écriture. Puis on m'a indiqué ma récitation, et dans l'après-midi, on m'a indiqué mon exercice d'écriture. Puisses-tu atteindre les sommets de l'art du scribe et de tes frères, sois le guide, de tes amis le chef. Tu as bien accompli ton éducation, tu es désormais un homme de savoir. Voilà ce que dit la première tablette. Et la seconde, c'est une tablette d'écolier, c'est un exercice d'écriture, comme on en a dans nos classes, où l'enfant est en train de recopier un texte. Et on sait que c'est un enfant parce qu'il a tenu sa tablette dans la main et il a la marque de sa main sur la tablette. Donc c'est une ardoise qui est restée. Alors, pour illustrer comment l'outil d'écriture va influencer, alors ici le système sémiotique, j'ai mis quatre mots. Et on voit que ces mots se composent, hein, le mot tablette, le mot scribe, qui reprend le mot tablette et qui lui ajoute un élément d'instrument, le mot écrire et le mot école qui désigne donc la maison des tablettes. La particularité de ce système, c'est qu'il n'est pas du tout idéographique. Et il va permettre de faire des compositions et donc d'adjoindre des éléments sémantiques pour donner un nouveau signifiant. Et quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu faire de la même façon si on avait un système phonétique où on est obligé de fabriquer, donc d'agir sur la morphologie du mot, ni si on avait un système idéographique où on aurait dû combiner deux dessins. Le système symbolique utilisé par les cunéiformes permet finalement un mode de traitement de l'information qui n'est pas le même que celui des écritures idéographiques ou des écritures strictement phonétiques. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a une manière de penser l'écrit qui est liée véritablement à l'instrument. Alors, deuxième illustration, celle qui va concerner l'apprentissage des lettres. À l'école maternelle. Je me suis fondée sur un article dont j'ai mis les références trois psychologues, mais deux expérimentalistes et puis une qui est du côté de l'éducation, Marie-Thérèse Herbateau-Poudou, qui ont voulu voir finalement la différence d'apprentissage entre des enfants qui apprenaient les caractères à partir d'une manipulation qui était l'écriture et des enfants qui apprenaient les caractères à partir d'une manipulation qui est la frappe. Voilà. Ils ont noté que, de façon générale, quel que soit, et ça c'est pas seulement lié, disons, à cet apprentissage-là, mais quel que soit l'objet que l'on fréquente, il y a une association entre les attributs de l'objet et sa manipulation. C'est-à-dire que lorsqu'on a simplement vu un objet en photo, vu des représentations de la photo, vu des représentations de l'objet, ou lorsqu'on a manipulé l'objet, on n'a pas la même représentation mentale de l'objet, et en particulier lorsque c'est un objet qu'on a manipulé, lorsqu'on le voit simplement, lorsqu'on a une image, on active les aires cérébrales qui correspondent à la manipulation de l'objet. Donc on le manipule mentalement, même si on ne l'a pas physiquement, à condition de l'avoir déjà manipulé. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle un réseau plurimodalitaire, c'est-à-dire que à cet objet est associé par exemple un sentiment de texture, un sentiment de de rigidité ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas manipulé cet objet. Alors pour les lorsqu'il s'agit de l'apprentissage des lettres, en réalité, ils ont mis trois éléments dans leur article, mais moi je me suis fondée sur un autre article dans lequel je rajoute un quatrième élément. L'enfant apprend finalement trois ou quatre choses. Il apprend la valeur phonique de la lettre A, il apprend la forme visuelle de cette lettre ou les formes visuelles de cette lettre, le geste, ça c'est très important, qui permet de tracer la lettre, et le nom de la lettre pour pouvoir la désigner. Alors, ils n'avaient pas mis dans leur article, mais un autre article précise que c'est un élément très important. Donc tout ça, ça fait partie des propriétés de l'objet. Et l'objet A que l'on voit, c'est aussi dans les représentations mentales, c'est aussi l'objet A que l'on trace. Pour illustrer cela, je peux donner aussi un autre exemple, c'est celui des arobases, que j'ai du mal en tout cas à dessiner, parce que c'est un objet que je vois, que je tape sur l'ordinateur, et qui m'arrive parfois d'écrire à la main, et que j'écris très très mal à la main, parce qu'on ne m'a pas appris à l'école à l'écrire à la main. Il ne fait pas partie de mon répertoire, je n'ai pas le bon geste pour le tracer. Donc ça demande de la réflexion pour le tracer. Alors, si on compare ce qui se passe lors de l'écriture, là je bascule du côté instrument traditionnel à ce moment-là en tout cas. Du point de vue de l'enfant qui, d'une part, enfin l'enfant qui dactylographie le A, et l'enfant qui, enfin ou n'importe quelle lettre. Et l'enfant qui écrit. Et même l'adulte, lorsque nous sommes en train de taper à la machine ou d'écrire à la main. Il y a des... comment dire, les commandes ne sont pas du tout les mêmes. Du point de vue de la motricité, et finalement, la consommation en attention existe dans les deux cas, mais est répartie un petit peu autrement. Alors, première chose, normalement, on tape à la machine à deux mains. Les gens qui savent taper à la machine tapent à deux mains. On écrit à une main, c'est-à-dire que l'autre main, elle a simplement une valeur posturale. C'est pas innocent parce que taper à deux mains, ça suppose une excellente coordination des deux hémisphères cérébraux. Alors que lorsque on écrit, on a besoin finalement d'avoir. On a une main au repos, qu'on soit droitier ou gaucher, peu importe, qui assure l'équilibre, et l'autre main qui est simplement chargée du geste moteur. Autre particularité, lorsque on écrit à la main, les contraintes motrices sont très très fortes. Parce que ça mobilise une partie importante du corps. Et en même temps, alors, ça a des désavantages chez les jeunes scripteurs, les scripteurs malhabiles. Ça a aussi un avantage, c'est-à-dire que ça imprime corporellement le schéma de la production de la lettre. Et d'avoir fait cela, c'est quelque chose qui est... je dirais plus ou moins éducatif d'une certaine façon. Autre particularité, lorsqu'on tape sur ordinateur, le retour à la ligne se fait automatiquement, on n'a pas besoin de réfléchir. Lorsqu'on écrit à la main, on est forcé de programmer, donc d'explorer l'espace de la page pour pouvoir se situer. Or, les enfants, jusqu'à peu près vers 7-8 ans, ont du mal à se détacher de ce qu'ils sont en train d'écrire, parce que c'est finalement le tracé qu'ils sont en train de produire qui guide, qui pilote leur vision. Et donc, très souvent, ils commencent à écrire un mot, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas assez de place pour l'écrire, et ça crée un certain nombre de problèmes. Nous avons les mêmes difficultés, nous, en tant qu'adultes, lorsque nous écrivons au tableau, parce que nous ne pouvons pas nous reculer suffisamment pour voir où on en est, et très souvent, on utilise mal l'espace du tableau pour cette raison-là. L'espace entre les lettres correspond à des gestes aussi de nature tout à fait différents, puisque dans un cas on est obligé on est obligé de relever la main, alors qu'on continue dans la même lignée lorsqu'on est en dactylographie. Mais en même temps, en dactylographie, chaque lettre est inscrite séparément. Et le blanc a exactement la même valeur qu'une lettre. Et puis ce sont donc deux gestes tout à fait différents. Dans un cas, on parle de morphocinèse, dans l'autre cas, de toposinèse. La morphocinèse, c'est... c'est l'apprentissage des formes. Par exemple, dans la danse, c'est véritablement de l'apprentissage de morphocinétique. Et la toposinèse, c'est ce qui consiste à atteindre un point de l'espace. Donc, on cherche simplement à taper un certain endroit. Il se trouve aussi que le patron gestuel est le même pour tracer une lettre en petit ou en grand. Alors, les auteurs dont je mentionnais l'article tout à l'heure ont fait un test avec des enfants donc, de petites sections qui n'avaient pas encore, de petites et moyennes sections, qui n'avaient pas encore eu d'apprentissage de l'écrit. Et ils leur ont fait apprendre les lettres... les lettres qui n'ont pas de miroir. A, c'est une lettre en miroir. Hein. Mais P, c'est une lettre qui n'est pas en miroir. C'est-à-dire, si on l'inverse, c'est pas la même lettre. B, etc. Ils leur ont fait apprendre 12 lettres. Et puis, ils ont mis quelques lettres miroir pour avoir des mots. Hein, c'est-à-dire le I, le O, le A pour avoir des mots. Mais le test portait sur les autres lettres. Et donc, on a fait apprendre à un certain nombre d'enfants les lettres sur ordinateur, c'est-à-dire que sur leur écran, il y avait une lettre qui s'affichait, ils devaient taper sur le clavier la lettre qui correspondait, ou bien des mots, ils devaient les recopier simplement en tapant comme ça. Et puis pour les autres enfants, ils avaient la même tâche, mais à faire à la main. Et on a pratiqué ça pendant plusieurs semaines. On a voulu ensuite voir les résultats, on leur a demandé... On leur a mis sur écran aux uns et aux autres des vraies lettres, des lettres en miroir et des lettres incomplètes ou des lettres fausses. Et alors, chez les tout-petits, la différence entre les deux ne signifie pas grand-chose. Mais chez les enfants qui ont plus de 50 mois, ceux qui ont appris à la main savent distinguer les vraies lettres et les fausses lettres. C'est très net parce qu'ils ont, incorporé le geste et donc ils voient le geste fait partie de la lettre. Alors c'est la même chose, alors sans que ce soit expérimental, mais chez les Japonais par exemple, quand un Japonais a du mal à se souvenir, à reconnaître un caractère en lecture, il commence à le dessiner. Et c'est en commençant à le dessiner que le caractère lui revient. Même chose, alors les Chinois commencent. C'est vraiment très complexe le système chinois. Et les Chinois commencent à reconnaître une lettre par les premiers traits tracés de la lettre. Ce n'est pas par sa forme, c'est par les premiers traits tracés. Voilà. Donc le geste est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je vais citer ici deux textes. Sur l'instrument d'écriture, là vous voyez, je suis dans la défense du stylo, papier, crayon contre l'ordinateur, mais simplement je pense que ça n'a pas les mêmes. Voilà. C'est comment dire, l'importance qu'il y a du rapport personnel entre le sujet et son instrument d'écriture. Je crois que même chez des élèves, même s'ils mâchouillent leur stylo, c'est leur stylo à eux. C'est leur papier à eux, c'est leur manière d'écrire, et ça c'est quelque chose qui est relativement important. Alors ici c'est un ouvrage de Sarah Kaufman où elle parle de son père qui a été elle ouvre le roman par cela, le récit par cela. Son père a été arrêté et ce qui lui reste c'est le stylo, et ce stylo, cet objet, ça ne pourrait pas être la même chose. On ne pourrait pas dire il me reste l'ordinateur de quelqu'un, enfin c'est pas pareil. Et puis un deuxième témoignage allant dans le même sens, celui de François Mitterrand, qui dit qu'il ne peut pas penser s'il n'a pas son stylo, et il lui faut écrire, il lui faut cet objet là alors des témoignages comme ça, on en a à foison. Ce qui est nouveau tout de même, c'est ce qu'a enregistré dans son ouvrage qui s'appelle Cher écran, Philippe Lejeune. De plus en plus de personnes entretiennent des rapports affectifs avec leur ordinateur. Et c'est vrai que c'est pas seulement une question de prix, mais en plus c'est des objets que finalement on change assez souvent, mais c'est quand même la cassette à qui on confie tous ses secrets. Et ce que Philippe Lejeune a constaté, c'est que pas mal de personnes écrivent leur journal intime sur ordinateur. Donc, son ouvrage en parle. Voilà. Donc, ça, c'était pour dire que l'instrument en soi, enfin, l'objet mécanique ou informatique ou autre, l'objet est un instrument conceptuel et social, émotif, hein, tout ce qu'on veut. Enfin, ça existe vraiment. Alors, j'en viens maintenant. Tiens, pourquoi ça ne s'affiche pas ? Voilà. J'en viens maintenant à un essai d'analyse un petit peu plus précis de l'écriture et des différences qu'il peut y avoir entre les formes d'écriture selon le médium. Dans l'équipe à laquelle j'appartiens, nous avons décidé de considérer que écrire, c'est finalement... ce que je veux dire, c'est très... c'est très très schématique, mais ça nous a permis de travailler ensemble. C'est traiter 5 types de contraintes qui n'ont pas le même degré, disons, de force d'obligation, qui sont toutes antagonistes les unes des autres, et pour lesquelles il n'y a pas un algorithme de résolution. C'est-à-dire, on ne pourrait pas dire, je vais commencer par la contrainte numéro 2, puis après je passerai à la contrainte numéro 4, puis après je passerai à la contrainte numéro 3, etc. Il n'y a pas d'algorithme de résolution. Ces 5 familles de contraintes s'exercent toutes simultanément, et chaque scripteur joue à sa façon avec ses contraintes comme il peut. Alors, la première, ce qu'on appelait les contraintes psycholinguistiques, C'est simplement dû au fait que notre mémoire de travail a une capacité limitée et elle est obligée de réaliser simultanément des opérations très complexes, des opérations de résolution de problèmes et des opérations de stockage de l'information. Alors, il y a plusieurs théories sur la mémoire de travail, mais on considère dans le modèle capacitaire que ces opérations se produisent à peu près simultanément avec une sorte de gestionnaire qui fait ça. Mais on ne peut pas augmenter la capacité de sa mémoire de travail. C'est comme dans un ordinateur dont on ne pourrait pas changer la mémoire vive. On peut mettre tout ce qu'on veut en mémoire morte, mais la mémoire vive de cet appareil n'est pas modifiable. Les deuxièmes types de contraintes sont les contraintes linguistiques, donc imposées par le système dans lequel on produit du texte. Ces contraintes-là sont extraordinairement hétérogènes. Par exemple, les contraintes d'ordre des mots en français n'ont absolument rien à voir avec les contraintes de morphographie. On peut déplacer certains adjectifs, on ne peut pas en déplacer d'autres. Quand on en déplace certains, ça modifie le sens, d'autres, ça ne modifie pas, etc. On a jonglé avec ça. Il y a des contraintes au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire des consignes que le scripteur s'impose ou qu'on lui impose. Et puis, celles qui nous intéressent plus particulièrement, il y en a qui sont imposées par le médium, c'est-à-dire le papier, le crayon ou l'ordinateur, et d'autres par le texte déjà produit, et toutes ces contraintes sont interactions. Alors, par le médium, par exemple, l'espace disponible crée une contrainte qui s'exerce sur la nature du texte à produire. À savoir, nous avons l'habitude d'un certain format de page. Lorsque nous devons écrire sur des formats beaucoup plus petits, nous sommes amenés non pas à réduire la taille de caractère, mais à changer la nature de ce qu'on écrit. Les journalistes, lorsqu'ils prennent des notes, ont, vous le savez, des tout petits carnets. Et l'usage de ces tout petits carnets est une contrainte aussi qu'ils s'imposent pour s'obliger à avoir des éléments beaucoup plus pointus, beaucoup plus lacunaires. Bon. L'expérimentation qui a été faite auprès de scripteurs consistait dans l'équipe là, à donner des tâches d'écriture à des personnes qui disposaient de feuilles A4 et de personnes qui disposaient de 4 morceaux de feuilles A4 et avec la même tâche d'écriture. Eh bien, les productions ne sont pas du même ordre. Le scripteur s'adapte à la taille de la page et modifie son texte en fonction de cela. Lorsque Victor Hugo écrit la fin de L'homme qui rit, il dit « J'écris sur la dernière page de la ramette achetée chez, je ne sais plus le nom de son fournisseur de papier ». Ça veut dire qu'il a réussi à calibrer son écriture pour écrire uniquement sur... Enfin, je ne sais pas le terme ramette, mais j'ai oublié le terme qu'il emploie. Il a calibré son écriture pour arriver à la fin du papier dont il avait besoin. Les élèves, on le voit bien, calibrent aussi leur texte par rapport à l'espace qui est donné. Si vous faites un questionnaire et que vous laissez un très grand espace pour des réponses ouvertes, vous avez quand même plus de chances d'obtenir des réponses un petit peu développées que si vous ne vous laissez simplement... quand vous fermez cet espace, vous incitez les gens à remplir l'espace que vous leur avez laissé. Donc, il y a bien ici une configuration de l'écrit par l'espace. Alors, l'espace offert par le traitement de texte, c'est un espace très particulier parce qu'il a une disposition horizontale qui n'est pas la même que celle de la feuille, et c'est surtout un espace absolument infini. Donc il va conférer ses propres... Cet espace va conférer un certain nombre de propriétés au texte. Et puis, la dernière type de contrainte qui, moi, m'intéresse beaucoup, ce sont les contraintes imposées par le texte déjà produit. Et au fur et à mesure qu'on écrit du texte, ce texte, je crois que j'ai fait un schéma après qui me montre un petit peu mieux, ce texte devient une sorte de consigne d'écriture évolutive pour le texte à venir. Tout le début est... Il y a les vraies consignes qu'on s'est données au départ, et puis il y a ce second lot de consignes qui est fourni par le texte et qui, quelquefois, est très impositif. Alors, il l'est moins chez des jeunes enfants parce que, tout simplement, les jeunes enfants naviguent très peu entre le texte à venir et le texte déjà écrit. Mais pour un certain nombre de scripteurs ordinaires, c'est quelque chose qui joue un rôle important. Donc, on est sans arrêt en train de jongler entre tout cela. Alors, ça veut dire que ces contraintes, elles se déroulent aussi dans des temporalités qui ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est justement ces questions de temporalité, voir comment elles obligent le scripteur à se débrouiller. Alors, écrire, finalement, c'est mettre en œuvre deux temporalités. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais il y a d'une part, parce qu'en plus toutes les deux sont complexes, il y a d'une part le scripteur qui pense à un certain nombre de choses, essaie de se souvenir d'un certain nombre de choses, accomplir des actes d'écriture, et tout ce qu'on peut mesurer, donc, enfin, ce que fait le scripteur, on peut le mesurer par des enregistrements, par des mouchards ou par différentes choses, on peut savoir. Donc ça, c'est vraiment un premier niveau de temporalité qui nous permet aussi de voir des modes rédactionnels un petit peu différents, avec des personnes qui s'arrêtent, des personnes qui écrivent tout d'un coup, des personnes qui hésitent avant d'écrire et puis qui vont s'élancer. Il y a vraiment des modes ici très, très, très différents. Ça explique aussi, les différences de rapidité vont expliquer aussi des différences de performance. Les scripteurs trop rapides qui vont commettre des erreurs, et les scripteurs trop lents comme les enfants qui vont commettre d'autres parce qu'ils vont oublier bien des choses. Donc ça, c'est un premier niveau de temporalité. Il y a un deuxième qui est celui du texte. Le texte, le texte, il vit sa vie, on peut dire d'une certaine façon, et l'attention du scripteur, elle se porte sur des états du texte qui n'ont pas tous la même consistance. Alors, je vais peut-être montrer mon schéma, mais je ne suis pas sûre qu'il soit, il est peut-être pas plus clair. Bon, enfin, voilà. Ce qui défile, enfin, je vais quand même peut-être essayer quand même de mettre ça. Ce qui défile dans la bande passante de la tête du scripteur, c'est ce que j'ai mis en jaune, c'est ce qu'il avait déjà dans sa tête. Il a des schémas, il a des formules, il a beaucoup de choses disponibles. C'est nourri par ses expériences, c'est nourri par tous les discours qu'il a entendus, tous les textes qu'il a lus. Ça forme un réservoir. Il produit du texte. Mais ce texte qui est en cours de production, la partie qu'il a déjà écrite, il l'a plus ou moins en mémoire. Il ne l'a pas totalement en mémoire. Il ne se souvient pas mot à mot de ce qu'il a écrit. Il a fait une sorte de résumé, il a resémantisé, il a recodé ce qu'il a déjà écrit. Et il pense que c'est écrit d'une certaine façon. Et puis, ce qu'il va écrire, ça doit faire partie de son espace de travail, mais c'est complètement flou. Donc, il travaille, quand on dit, par exemple, quand on examine la cohérence d'un texte, d'habitude, on travaille, quand on fait étudier la cohérence d'un texte à des élèves, on prend un texte qui existe déjà. Il a un début, il a une fin. Et on regarde s'il y a bien de la cohérence du début à la fin. Quand on est en train d'écrire, le début, il est dans le brouillard, la fin, il n'existe pas, et il faut s'arranger pour que tout ça colle, alors qu'on a des états de consistance qui sont très inégaux et qui sont plus ou moins consultables. Alors, on se souvient quand même d'un certain nombre de choses. Par exemple, quand on a lu quelque chose, on se souvient à peu près de l'endroit où se situait le passage qu'on a lu. Si on veut rechercher dans un livre un passage, en feuilletant, on devrait à peu près arriver. Si vous avez écrit quelque chose, vous vous souvenez que c'était, si c'est un texte un peu long, bon, si c'est un texte de 4 lignes, bon, c'est facile. Mais si c'est un texte un peu long, vous vous souvenez que ça, vous avez dû le dire à tel ou tel endroit. Si on modifie votre mise en page, c'est extrêmement difficile à ce moment-là de savoir où c'est, parce qu'on a associé finalement quelque chose qu'on a dit, qu'on a recodé, à un certain espace. Et si on nous modifie cet espace, c'est extrêmement difficile de le retrouver. Donc, le scripteur travaille toujours avec des vestiges, et des vestiges plus ou moins consistants. Donc il y a son texte qui continue à vivre sa vie, qui va être de plus en plus consistant, et puis lui qui travaille sur ce matériau, dont une partie est molle, faible, transparente ou fantasmée. Et puis derrière ça, il y a aussi le sentiment qu'a tout scripteur d'avoir dans sa tête des choses qui défilent très très vite, qui sont excellentes. Et puis l'impossibilité au moment où on écrit, la platitude de ce qu'on écrit, la difficulté de formulation, alors que quand on était dans la phase préverbale, c'était tellement beau, tellement bien écrit, tellement brillant, tellement rapide et impossible. Donc ce sentiment, finalement, on a 3 décalages. On a le décalage, enfin, on a ce qu'on peut vraiment lire sur du texte, ce dont on se souvient, ce qu'on anticipe, et puis par ailleurs, ce qu'on est en train de penser, et qui est merveilleux, mais qui ne va pas se traduire finalement aussi bien. Donc on est sans arrêt en train de travailler à ces différents niveaux. Et le fait de travailler sur traitement de texte rend la consultation des écrits un petit peu différente. D'une certaine façon, quand on est sur la même page, ça stabilise les écrits, parce que on perçoit à peu près mieux leur disposition, elle est plus régulière. On peut utiliser directement la mise en page. C'est donc une sorte de facilitation. Mais en même temps, on a la consultation que d'un écran partiel. Enfin, que de quelque chose de partiel. Et ça s'efface. Autre chose aussi, je reviendrai un petit peu après sur cette question-là. Quand on a effacé du texte, il reste en mémoire ce qu'on a effacé quelquefois, et on peut continuer à travailler avec quelque chose qu'on a retiré alors qu'on pense qu'il est toujours dans le texte. Alors, les méthodes pour observer cela, je donne quelques exemples. Les protocoles d'analyse chronométrique, ici nous avons soumis à la torture un certain nombre de scripteurs qui ont accepté de se prêter à cette expérimentation. Donc, on a travaillé avec des sujets gauchers pour qu'ils aient les mêmes situations. Ensuite, on l'a fait avec d'autres sujets. On leur donne une tablette graphique et ils écrivent sur un écran et on enregistre les mouvements oculaires et pour voir comment les personnes procèdent pour écrire et savoir à quel moment elles se reportent sur le texte source, il s'agissait de continuer un texte, à quel moment elles se reportent sur leur propre texte, à quel moment elles se reportent sur l'espace disponible pour gérer la page et savoir où ils vont écrire. Et donc, nous avons, alors, on met un appareil, on teste d'abord, on le fait regarder des points sur l'écran, etc. Ils sont fixés. Bon. Et nous avons mis en évidence des différences d'attitude assez importantes. Nous avons ici trois scripteurs qui ont rempli la même tâche. Je ne sais pas si on voit bien les gros ronds. Enfin, les plus gros ronds représentent les espaces de fixation oculaire. C'est-à-dire, les yeux sont toujours en mouvement. Hein. À aucun moment, quand on dit fixation, ça ne veut pas dire que les yeux s'arrêtent. Ça veut dire que les yeux balayent une zone. Et le scripteur le moins habile, en fait, est revenu très très souvent sur une zone qui lui posait problème, et il est vraiment resté sur cette zone, il s'est très peu reporté à d'autres passages. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus fluide, c'est la personne qui est écrivain, blogueuse, essayiste, et elle a extrêmement peu d'arrêts, c'est-à-dire qu'elle est là vraiment mémorisée, elle a lu une fois le texte, elle a mémorisé son propre texte. Et il y a une continuité extrêmement forte à l'intérieur de son texte. Elle a vraiment repéré toutes les caractéristiques génériques du texte source. Elle a très peu de points de fixation. Et là, on a une étudiante qui est moins habile et qui est obligée de s'arrêter beaucoup plus souvent et de revenir en arrière pour voir où elle en était. Donc, on a ici des modes différents. Alors, quand on observe ça, ça ne veut pas dire qu'on sait pour autant ce qui se passe dans la tête des personnes. On sait où vont leurs yeux, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Alors, on peut essayer de savoir regardant les traces graphiques, mais quantité de choses nous sont encore inaccessibles. Ce que j'ai représenté là, c'est un texte de Jules Romain, enfin un texte, des bulles de Jules Romain, dans lequel il va essayer de faire finalement le plan pour sa réédition, pour les hommes de bonne volonté. Et il utilise l'espace, mais on ne peut pas savoir ce qui se passe derrière. On a ces traces-là. Et de façon générale, on ne peut pas savoir, on peut savoir très très peu de choses. Quand on enregistre les personnes en train d'écrire, on n'a absolument pas accès à leurs intentions. Alors, des chercheurs ont demandé à des scripteurs, pour essayer d'avoir accès aux intentions, soit de parler pendant qu'ils écrivaient, soit de dire immédiatement après, c'est-à-dire on les a filmés. Le premier cas, ce qu'on appelle la verbalisation concurrente, donc pendant que vous êtes en train d'écrire, vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Ça perturbe le processus d'écriture, parce que quand on écrit, on n'est pas en train de parler, c'est une autre activité. Donc, les informations qu'on a ne sont pas fiables. L'autre processus mis en place par Fortier au Canada consiste à filmer quelqu'un, filmer son texte, et immédiatement après, on lui projette et on lui demande « Et là, vous êtes arrêté, vous pensiez à quoi ?» Et la personne dit « Je sais pas, là, j'ai cherché telle ou telle chose. » Mais en fait, elle n'en sait pas plus que dans une introspection. On ne sait pas, on n'a pas accès aux intentions. Alors, j'ai noté ici deux petits textes qui illustrent cela. Le texte de un texte d'Annie Ernaux dans lequel elle montre par exemple que si on se fonde simplement sur ce qui est publié, on se trompe sur ses intentions. Parce que il y a eu une intervention des éditeurs qui lui ont fait modifier son texte et qu'elle est obligée de le calibrer et qu'elle le reprendrait autrement. Et puis un deuxième texte allant dans le même sens de Flannery O'Connor, dans l'ouvrage que la, dans lequel sont rassemblés ses, ses travaux sur, sur l'écriture. Et elle parle d'une, d'une écrivaine qui dit écrire tout dans sa tête. Et elle dit, moi, je n'y crois pas. Mais après tout, il y a des modes de travail qui sont tout à fait différents. On sait que Maupassant comment dire, cogitait beaucoup avant d'écrire. Il faisait peu, relativement peu de brouillon parce qu'il était employé au ministère. Et donc, pendant ses, le moment où il aurait dû, comme Huysmans, comme pas mal de gens de cette époque, où il aurait dû travailler, il réfléchissait à ce qu'il allait écrire. Et quand il rentrait, il écrivait à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il avait, on peut dire, travaillé son texte afin de l'écrire. Alors, de tous les éléments, comment dire, j'ai noté ici une série d'éléments qui sont inconnaissables ou qui nous informent sur le fait qu'il se passe quelque chose et qu'inaccessible. Alors, ce que Otis Revues appelle les boucles réflexives du dire, c'est lorsqu'on est en train de dire quelque chose ou en train d'écrire quelque chose et qu'on revient sur ce qu'on est en train d'écrire pour se corriger. Par exemple, l'auteur écrit ce personnage, ou plutôt devrais-je dire cet individu. Ça veut dire qu'il est en train de dialoguer avec lui-même. Donc, il est en train de se dédoubler au moment de son, son écriture. Alors, ici, elle... c'est un des premiers procédés. Le deuxième, j'emprunte à... Enfin, c'est pas comme ça qu'elle l'appelle, mais à Dominique Bucheton, où elle montre comment le texte peut tout à fait continuer à travailler par la suite, c'est-à-dire que l'expérience a consisté à faire écrire un texte par des élèves, on leur a donné un sujet, et puis... On leur a demandé plusieurs semaines plus tard d'écrire le même sujet à nouveau, et puis encore plusieurs semaines plus tard. Et on s'aperçoit que le texte a pris de l'épaisseur. Donc le texte a continué à travailler. Et puis la mise sous narcose, c'est l'idée que souvent, quand on commence un texte, il y a plusieurs hypothèses qui sont envisageables. Et il y en a une seule qui va être retenue à un certain moment, et peut-être que l'autre qu'on avait effacée, elle va revenir. Là, j'ai constaté dans pas mal de textes d'enfants, où ils ont au début un personnage qui a certains traits de caractère, il perd dans l'action ses traits de caractère, et puis tout d'un coup, il les retrouve. Donc quelque part, ça s'est réveillé. Ou des éléments qui étaient sous brouillon. Voilà. Je vais... peut-être passer un petit peu vite sur... sur la suite. Parce que... je vois que... Alors, maintenant, je passe à la... Je reviens sur un point que j'ai abordé, qui était celui du, de la temporalité du texte et de ses différents niveaux. C'est-à-dire... consultable, mémorisé, à produire, etc. Et comment dire, ces niveaux-là, finalement, vont, en particulier tout ce qui est tout ce qui a déjà été produit, va créer, je l'ai annoncé tout à l'heure, va créer un ensemble de contraintes qui vont s'exercer de façon plus ou moins ferme ou plus ou moins molle sur le lecteur, sur l'écriture. Je vais en donner quelques exemples. Alors, de façon plus technique, le texte déjà produit, lorsqu'il est disponible, donc consultable, lorsqu'il est mémorisé, va déterminer, par exemple, des caractéristiques de genre, des contraintes de cohérence et des points de cet ordre. Alors, il y a une expérimentation, enfin, c'est un travail de thèse qui a été fait à ce sujet, avec le début d'un texte qui était donné à des élèves de seconde, dans lequel il y avait finalement deux genres qui étaient possibles. Et on voit comment la prise d'indices orientant vers un genre, le genre du conte, ou vers un autre genre, le genre du roman policier, a déterminé ou non l'écriture, et comment la possibilité de revenir sur le texte, s'ils ont les moyens de réécrire, modifie ou non la deuxième écriture. Alors, j'ai pris chez un écrivain des exemples. Pas grand-chose. Des exemples de la trace du texte disparu. C'est dans l'éducation sentimentale. On voit que il réécrit deux fois la même page, à peu près, hein. Et le texte est presque entièrement barré. Et à la fin, il reste ce petit texte que j'écris en dessous, qui a été très commenté, hein, qui est très célèbre. Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, etc. Il revint. C'est vraiment une ellipse extraordinaire. Cette ellipse, elle est possible que parce qu'il y a eu ce texte disparu, qui est là à ce moment-là. Ce texte, finalement, il va nourrir le « il revint ». Donc, il est quand même présent quelque part, même s'il a disparu. Et par exemple, Gide, quand il va recopier le manuscrit de la porte étroite, il souligne les passages supprimés et il va les remplacer dans sa recopie par des sauts de paragraphes pour garder en souvenir le sacrifice qu'il a fait des passages disparus, alors qu'il aurait pu les faire disparaître. Donc, ce texte disparu, il continue à exister quand même. Il est là quelque part. Alors, de façon plus grammaticale, j'ai regardé dans des textes d'élèves. C'est des choses très, très, très classiques. Des procédés de contamination dans lesquels des passages qui ont été barrés ou des passages déjà écrits contaminent le texte à venir. Alors, je ne vais pas développer puisque je suis au bout de mon temps, mais il y a des problèmes de contamination morphologique où il reste des singuliers qui influent sur le pluriel, etc. Et puis des contaminations sémantiques où quelque chose qui a disparu reste, ou quelquefois par anticipation, on a un mot qui est mis à la place du mot qui doit venir plus tard. Ici, il y a deux fois tout, hein, sur le chemin. Tout retour, tout allait bien. C'est sur le chemin du retour, tout allait bien, mais tout a été anticipé parce que l'élève sait qu'elle va écrire tout allait bien par la suite au moment où elle est en train d'écrire du, et donc elle écrit le mot qu'elle doit écrire par la suite. On voit comment il y a des navigations. Et là, j'ai pris un exemple chez Témoigne de Méricourt, trouvé un bel exemple de. Je ne sais pas, oui, je pense qu'il est lisible. Chacun avait développé ER, son caractère et ses facultés naturelles. Donc on n'écrivait pas beaucoup mieux au XVIIIe siècle, on faisait les mêmes erreurs pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Alors, il y a un certain nombre d'auteurs, j'ai cité le cas de ceux qui veulent garder les cicatrices du texte disparu, il y a des auteurs qui veulent justement détruire la trace du texte disparu, c'est le cas de Malraux dans La condition humaine, où il ne se contente pas de barrer, hein, il découpe, il ne veut plus avoir sous les yeux. Et Léris, lui, il renverse sa feuille et il réécrit le texte. Voilà. Donc ça, ce sont j'avais un certain nombre de points que je vais abréger parce que les questions de temporalité nous préoccupent tous. Donc voilà. Et j'en viens à une conclusion sur quelques pistes didactiques. Alors, je dirais pour exploiter les contraintes et les facilitations de l'instrument, je reste sur le traitement de texte. Alors, il me semble qu'il y a un certain nombre de principes qu'on peut se donner. La première, c'est celle, en tant que formateur, de variables didactiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tant que formateur, dire « j'ai la solution, voilà, désormais, c'est comme ça que... » je pense qu'à chaque fois, il faut proposer plusieurs possibilités, ne visant pas forcément au même objectif, ou visant au même objectif, et en examinant simplement tout ce qui est autour de ces possibilités-là. Et le professeur prend des décisions et n'applique pas. Il prend des décisions, il a la possibilité de faire écrire directement sur traitement de texte, faire écrire sur papier, de faire travailler à deux, de faire travailler de telle et telle façon. C'est lui qui prend la décision, à condition qu'elle soit instruite. La deuxième... les autres consignes qu'on peut se donner, c'est véritablement de... Ça a l'air bête de dire ça, mais penser les situations d'écriture en fonction véritablement des particularités de l'acte d'écriture qu'on veut faire travailler. Habituellement, on les pense toujours, et on n'a sans doute pas tort, en fonction des propriétés textuelles. Je pense que ça doit être conservé. Mais on peut également penser des propriétés des situations d'écriture en fonction des propriétés par exemple, cette activité. C'est-à-dire que ça exige de la mémoire, ça n'exige pas de mémoire. Ça peut s'appuyer sur des listes, ça ne peut pas s'appuyer sur des listes. Ce sont des compétences d'écriture différentes. Donc là, c'est vraiment un terme de compétences. Bon, des situations d'écriture qui vont exiger des élèves des manipulations dans lesquelles ils vont utiliser les ressources du traitement de texte. Je donnerai après quelques exemples. C'est pas seulement dire écrire sur traitement de texte, c'est véritablement que la consigne soit telle qu'elle amène à utiliser cette ressource. Des situations d'écriture, alors pas spécialement sur traitement de texte, mais qui respectent la singularité des scripteurs et qui les font évoluer. C'est-à-dire, il y a des scripteurs qui ont besoin de tout penser dans leur tête avant. Il y en a qui ont besoin de faire des schémas. Il y en a qui ont besoin de faire des listes. Il y en a qui préfèrent se lancer dans l'écriture. Il faut absolument qu'on puisse respecter ça, qu'on puisse amener simplement à diversifier les stratégies. Il n'y a pas une méthode. Alors, je donne quelques exemples d'exercices, enfin d'activités d'écriture dans lesquelles on utilise des propriétés du traitement de texte. Bon, se poser la question de commencer par le début ou pas. On peut très bien commencer par tout à fait autre chose que le début. Ça sera certainement bien meilleur que si on commence par le début. Poursuivre un incipit, c'est quelque chose de tout à fait classique. Bon, c'est donc là on a une alternative. Mais on peut aussi faire commencer à partir d'un incipit et demander finalement proposer de le modifier en fonction de ce qui va être écrit par la suite. On autorise tout à fait cette transformation. Donc la règle du jeu, elle est posée. Prendre un début de roman et faire écrire ce qui se passe avant. Ben, tous les procédés dans lesquels on peut dévoyer un texte. Voir avec les élèves s'ils préfèrent utiliser la structuration typographique ou structurer ultérieurement. Et je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien écrire en continu et d'autres personnes qui aiment bien avoir déjà mettre les titres. Je pense qu'il faut vraiment travailler les deux pour laisser la possibilité. Travailler l'archivage avec les élèves, l'archivage de leur version. soit archivage papier, archivage sur le texte, faire travailler la digression. Le système conseilleur qui a été mis en place par Jacques Rino et Brigitte Marin, c'est un système d'échange dans lequel des élèves donnent des conseils à d'autres élèves sur leur écriture, et on s'est aperçu que les conseilleurs sont les payeurs. C'est-à-dire que ce sont les conseilleurs qui améliorent véritablement la qualité de leur propre production et non pas les élèves conseillés. Donc on peut transformer des élèves en conseilleurs, relecteurs, faire circuler les textes. Il y a des textes martyrs qui sont donnés, qui peuvent être donnés, circulés. Alors j'ai mis l'exemple, s'insérer dans l'écrit d'un auteur, j'ai mis l'exemple de la traduction d'un roman de Douglas Kennedy. Je ne me souviens plus quel roman il s'agit, mais en lisant ce roman, je me suis dit, c'est curieux, ce passage-là, il ressemble pas au restant du livre. Et j'en ai parlé à une de mes anciennes élèves qui a rencontré Douglas Kennedy, et Douglas Kennedy laisse son traducteur effectivement libre de s'insérer dans le texte et d'écrire différents passages. Donc le passage était bien écrit par quelqu'un d'autre. Contrairement à Nabokov qui ne supportait pas qu'on ne traduise pas. Voilà. Et puis, derniers éléments, des exercices comme les journalistes en font, dilatation du texte, réduction du texte, c'est extrêmement difficile et frustrant, mais maintenant, il y a quand même tous les moyens de travailler en X caractères et de demander de passer de 2000 caractères à 2500 ou de 2500 à 1500 caractères sur son propre texte, c'est apprendre quelque chose d'autre que de travailler sur les résumés. Et ça, ce sont des consignes qui existent socialement. Bon, tout ça.